Si c'est là, c'est ici.
Je suis cambodgien. Je suis né là-bas, dans le tourment de l'histoire. Je n'ai pas choisi d'être né cambodgien. Je suis aussi universel, quelque part. Si je suis en vie, c'est le hasard. Mais quelque part, je dois faire de mon mieux pour essayer d'apporter ma modeste contribution.
Tong Eun Ong, vivre, c'est comprendre.
On a torturé mon père, on a assassiné la plupart des membres de ma famille, saccagé tout ce que j'aime dans ce pays. Il y a une plaie que je n'arrive pas encore à cicatriser. Quand je ferme les yeux, je pensais toujours aux gens que j'ai connus, à ma famille réunie, aux beaux paysages de Cambodge. Et maintenant, le Cambodge se restreint comme un pot de chagrin. C'est l'impossibilité de penser que l'homme pouvait être aussi mauvais, et surtout l'homme cambodgien. Je dois lutter pour que les Cambodgiens comprennent. Je dois aussi lutter pour que les autres comprennent. Il faut que chacun de nous se regarde en face, en nous. L'histoire des Cambodgiens, c'est aussi l'histoire universelle. Ça peut arriver à tout le monde.
Aujourd'hui, nous allons rencontrer Tong Eun Ong, un écrivain cambodgien. L'histoire douloureuse de Tong Eun est ponctuée de conflits. La fin de la guerre d'Indochine, les troubles liés à l'indépendance du Cambodge et sa décolonisation violente, la guerre américaine au Vietnam voisin, le contentieux khmero-vietnamien, l'insurrection fomentée par les Khmers rouges et leur prise de pouvoir à Phnom Penh, et la mise en place des camps de rééducation politique et d'extermination. Tong Eun tente aujourd'hui de comprendre à travers l'écriture. Très actif dans la sensibilisation et l'éducation, il publie des livres, des articles et organise des conférences. Il vit désormais à Bruxelles avec les siens et raconte ici son combat quotidien face à l'innommable.
Je suis né dans une région qui se trouve à 60 km. Environ de la capitale de Phnom Penh, au bord d'un fleuve, c'est à 30 km de la frontière du Vietnam. Donc je suis un enfant du fleuve, de Mekong. Mes parents sont des agriculteurs. J'ai 6 frères et 2 sœurs, voilà. Enfin, j'avais, maintenant il y en a resté la moitié. Je crois que j'ai une relation assez conflictuelle avec ma mère. C'est une travailleuse et c'est quelqu'un d'assez sévère. Et surtout, elle est très économe. Toutes les choses comptent pour elle. Et j'ai toujours adoré mon père parce que lui, il ne parle pas. Il essayait d'être compréhensible avec ses enfants. Et j'ai toujours besoin de confronter, de parler comme ça, de me battre pour quelque chose, pour les idées, pour défendre quelque chose que je crois juste. Je suis un garçon assez révolté.
Tong Eun vient d'avoir 8 ans lorsque l'indépendance du Cambodge, alors sous protectorat français, est déclarée en 1953. Les Français placent le roi Sihanouk au pouvoir. La guerre des Américains au Vietnam fait rage et touche inéluctablement le Cambodge voisin.
Il n'y a pas tellement de lutte armée au Cambodge par rapport au Vietnam, mais au Vietnam, c'est la lutte sanglante. Il y a les troupes vietnamiennes aussi à l'époque, parce que les Vietnamiens ou les Khmeros vietnamiens qui se battaient, et il y a ça aussi qui jouait. On n'était pas en sécurité quand j'étais enfant. C'est assez difficile, quoi. C'est l'incertitude, et avant 1956. C'est la période de guerre, quoi. Mes parents m'apprennent à avoir peur. Peur. C'est le plus caractéristique de la société cambodgienne. C'est la peur de l'autorité. Les paysans, ils ont toujours peur. Toujours peur de l'autorité. L'autorité coloniale, l'autorité cambodgienne, l'autorité, ils ont peur de tout le temps de l'autorité. Qui opprime les gens, qui les contrôle injustement. Il n'y a pas une justice, quoi. C'est-à-dire, la peur est quelque chose de... C'est la terreur, quoi, qui domine les gens, la mentalité des gens, la vie des gens. Les Français, avant la fin de leur colonisation, ils essayent d'imposer un régime parlementaire au Cambodge. Et en 1946, je pense, la loi du Cambodge est morte. Et le Français a choisi Sihanouk comme roi. Et peut-être ici que je commence à saisir un petit peu. À partir de là, c'est le parti de roi Sihanouk qui gagne tout le temps. C'est la répression, quoi. C'est aussi la période du parti unique. Hein. C'est pas seulement au Cambodge, c'est la période de Nasser, la période de Bandung. Confrontant des pays non alignés, tous les pays africains. Petit à petit, les opposants sont démantelés. Voilà. Ma vie a commencé comme ça.
Tong Eung quitte alors son village natal pour rejoindre la capitale de Phnom Penh. Il fait ses études secondaires dans un contexte en ébullition.
C'était un déchirement de quitter mon village. Mais en même temps, je voulais connaître ailleurs. Je commence à lire beaucoup les livres et je lisais aussi les journaux. Et en ce temps-là, le régime de Sihanouk a donné de priorité à l'éducation nationale. Et c'est le point fort de ce régime. Et à l'époque, on critique beaucoup le régime, la féodalité, la corruption, l'immobilisme de la société, l'inégalité sociale. Ça développait beaucoup notre esprit critique. Et puis, ça germait en moi. À l'époque, il est progressif. À cette époque, on pensait qu'on avait un avenir, c'est-à-dire qu'on voulait construire une société plus juste, plus humaine, plus... Enfin, c'est dans l'idée progressive. Et curieusement, on commence à changer aussi, à apprécier Sihanouk. Et Sihanouk a coloré les mouvements politiques cambodgiens pour les progressistes, ils disaient « Khmer Rouge ». Et les gens de droite, ils disent les Khmer Bleus. Avant, Khmer Rouge, ça veut dire ceux qui osent lutter contre la féodalité, la corruption et pour la démocratie. C'était les progressistes à l'époque. Ça ne gêne pas, le thème Khmer Rouge, ce n'est pas comme maintenant. Et tout cela, nous, en tant que jeunes, on ne se rendait pas compte qu'on se faisait rouler par eux. Petit à petit, on a réussi à nous imposer sans se rendre compte. J'ai commencé à réveiller que c'était une erreur de faire comme ça. Parce que bon, c'est à partir de là, la guerre du Vietnam commence à ravager jusqu'à la frontière du Cambodge. Et ça entraîne le mécontentement populaire. Donc, en 1960, 18 mars, c'est le coup d'État contre Sihanouk. Et c'est à partir de là que le Cambodge est encore une fois plongé à nouveau dans la guerre.
C'est alors que Tong Eung part à Paris et poursuit des études d'économie politique. Nous sommes en 1965.
Je suis triste de quitter ma famille, mais en même temps, je suis content de pouvoir le faire. C'est la dernière fois que j'ai vu ma famille réunie. C'est la dernière fois de ma vie.
C'est la première fois à Paris aussi. On me considère comme je suis, quelque part. Au Cambodge, j'étais toujours le fils de quelqu'un, le frère d'eux. Tandis qu'ici, à Paris, en France, on me considère comme je suis. À l'époque, il faut dire que c'est la communauté qui prime. C'est pas moi.
on ne raisonne pas en tant que moi, en tant qu'individu. L'individu n'a pas de place dans le raisonnement comme ça. Et je pense que quelque part, c'est dangereux ça. On met en doute ce qu'on ressent vraiment soi-même. Parce qu'on va faire partie d'une histoire, c'est notre histoire. On dit, voilà, je suis prêt à souffrir pour que l'avenir meilleur pour mon peuple. Donc, ma place est là-bas. Et s'il faut sacrifier quelques années pour que le monde meilleur, je dois le faire. Dans le camp, seulement, je me rends compte que c'était une erreur monumentale. Si on sent que quelque chose qui va pas, il faut pas raisonner en tant que communauté, mais raisonner en tant qu'individu. Tout de suite, ça m'a bouleversé, ça me fait travailler en me disant qu'est-ce que moi, je pouvais faire pour aider le Cambodge. Et ce mantra toujours, c'est de l'incertitude. Et j'essaie de donner un sens à ma vie. Mais comment? Et en même temps, la situation du Cambodge se dégrade de plus en plus. Et puis, en 1970, 18 mars 1970, il y a le coup d'État du Cambodge. Et tout de suite, j'étais contre ce coup d'État. Et en 1975, j'ai épousé ma femme. Elle a vécu 3-4 ans à Paris pour faire une thèse sur les droits des femmes. Et quelques mois après l'arrivée de Khmer Rouge à Phnom Penh, elle est retournée au Cambodge avant moi.
Après ses études, il décide de rentrer au pays, nonobstant les rumeurs selon lesquelles les Cambodgiens se font massacrer. Cela dépasse tant son entendement qu'il refuse d'y croire.
Je voulais pas, absolument pas croire, bien que les rumeurs, bien que tout, je voulais pas admettre. C'est vraiment illogique, mais je voulais pas entendre que les Cambodgiens tuent d'autres Cambodgiens. Les gens qui sont sortis du Cambodge sont vraiment formés pour parler juste ce qu'il faut pour ne pas mettre en doute notre aveuglement. De toute façon, c'est pas choix. Ma femme est là-bas, je dois rentrer. Et une fois arrivé à Pochentong, moi, j'attendais voir ma femme, les membres de ma famille. Bêtement, j'attendais voir les miens. Quand j'ai descendu, il n'y a personne. Et puis, j'ai regardé à gauche, à droite. L'ambiance pesante, un peu bizarre, on sait tout de suite que ça, c'est quelque chose qui ne va pas. Et il n'y a que des soldats Khmer Rouge. Et puis, une demi-heure après, on nous a fait monter dans une camionnette pour aller. Je ne sais pas où, mais dans une camionnette. Et puis, prendre la direction de Phnom Penh, je sais. Mais j'ai commencé à avoir vraiment peur parce que, bon, 20 minutes après, on est arrivé dans les bâtiments. Et là, tout de suite, j'ai vu mes anciens amis, beaucoup. Tout de suite, on voyait l'état catastrophique. Le sous-alimentation, maigre, sale. Puis j'ai essayé de voir ma femme, elle n'était pas là. Une heure après, je l'ai vu de loin avec les autres. Elle me regardait comme ça. Puis finalement, je ne sais pas quoi faire. On se rend compte petit à petit que voilà, on serait comme eux, quoi. On est foutu, on est coincé, quoi. On ne sait plus quoi faire. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas. Je suis tombé dans le camp de l'éducation. On ne sait pas pourquoi. On sait que c'est l'enfer sans retour, quoi. On se dit que c'est l'enfer sur terre, c'est comme ça. J'ai perdu d'abord mon père, mes 4 frères, leurs femmes et leurs enfants. La plupart de mes amis, quoi, sont tous morts, quoi, sont tous morts à l'époque de Khmer Rouge. Les gens qui se font tuer, il n'y a pas de témoin après. On pensait qu'il est allé travailler, allé dans un autre camp comme moi, quoi.
comme nous qui sommes encore en vie, mais on n'ose pas demander non plus parce qu'on ne pouvait pas demander. C'est interdit de demander. Le plus dur, c'est la femme et c'est le travail, la torture morale, c'est la rééducation, quoi. On vous fait parler, par exemple, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Est-ce que vous pensez à l'ancienne société? Est-ce que vous pensez à votre famille? Est-ce que vous pensez à vos amis? Et il faut dire, voilà, je pense vraiment à mon travail pour l'éducation des socialistes, pour le bien-être du peuple, quelque chose comme ça. Vous pensez que c'est bien de parler comme ça, mais on vous critique, mais c'est un mensonge, parce que bon, à l'intérieur de vous-même, vous dites ça pour nous mentir. Enfin, on a toujours quelque chose à vous reprocher. Donc c'est quelque chose, c'est difficile de comment faire, quoi, de l'avoir le cerveau, parce que c'est, on se sent vraiment dévalorisé. Parce que le régime totalitaire, le contrôle de la pensée est quelque chose de très important. C'est la clé. C'est la clé de le système. La torture physique la plus efficace, c'est la faim. Pour abrutir les gens, pour abattir les gens. Quand vous avez faim, vous n'avez plus de dignité. Tout le monde a faim. Alors, quand c'est l'heure du repas, on se bat comme des chiens, comme des... Vous n'êtes plus humain, quoi. Par exemple, une fleur comme ça, qui est très jolie. J'adore les fleurs. C'est moi maintenant, parce que j'ai mangé à ma faim. Et quand j'avais tellement faim, je ne vois pas la beauté de fleurs. Est-ce que je peux manger ou non? Et donc, il n'y a plus de beauté, il n'y a plus de poésie, il n'y a plus de... C'est la lutte pour la survie. Et petit à petit, sans me rendre compte, j'étais devenu comme eux. 36 kilos.
Vous pesiez 36 kilos?
36 kilos. On ne peut pas rester assis comme ça, ça fait mal, quoi. Vous n'avez plus de chair. Il n'y a que la peau, quoi. La peau est là. Et ça vous fait mal. Mais à part ça, on vous fait travailler. 12 heures... 14 heures, vous devenez fou, quoi. De plus dire encore, vous rend compte que c'est un travail inutile. On vous fait travailler pour rien, quoi. Pour vous faire fatiguer. Tout ça, c'est pour nous humilier, quoi. On ne sait plus ce qu'on est exactement, pour finir. On a peur de tout le monde, quoi. Même peur de soi-même, on ne sait plus. Si on m'avait demandé de faire des choses, ce temps-là, impossible que je ne voulais pas le faire vraiment. C'est-à-dire, par exemple, tuer quelqu'un. Pourquoi d'autres pouvaient le faire? Est-ce que je pouvais être un assassin? Est-ce que ces gens-là, peut-être au départ, ils ne sont pas programmés dans leur subconscient, les tortionnaires, ils tombent dans l'engrenage.
Tong Eun Hong a survécu à 5 camps différents pendant 3 ans. En 1979, le Vietnam envahit le Cambodge et le régime des Khmers rouges de Pol Pot s'effondre. Tong Eun est libéré du dernier camp de rééducation politique. Une coïncidence l'amène alors à devenir archiviste dans un des plus gros camps d'extermination, le camp S21.
C'est bouleversant, c'est la fin de l'histoire quelque part. Parce qu'avant cette date, bien que les amis disparus, les gens qui partaient du camp, on ne sait pas où, on pensait peut-être qu'ils étaient dans un autre camp, ils étaient encore vivants, et quelque part. Et tout d'un coup, on a trouvé la confession. Après la confession, c'est marqué, exécuté, telle date. Donc on n'a plus de doute possible, on sait que voilà, il y a un camp d'extermination ici, et il y a d'autres camps, on a découvert le système d'extermination des Khmer Rouges. Donc, je pouvais faire la liste des morts. Voilà. Et je vous assure que c'est le jour le plus noir de ma vie parce que tout d'un coup, vous voyez la réalité.
Avant, vous en doutez un petit peu, mais vous ne pensez pas. Et vous dites que c'est... Comment c'est... Les hommes sont aussi méchants, comment c'était possible. On sait pourquoi, mais il n'y a pas de pourquoi là-dedans. Il n'y a plus de pourquoi, quelque part. Les mots sont quelque part en vous. Qu'est-ce que vous faites de ceux qui sont morts?
Trente ans après le massacre de centaines et de centaines de milliers de Cambodgiens, un tribunal vient enfin d'être établi pour juger les responsables Khmer Rouge. Ce tribunal est mixte, c'est-à-dire mi-cambodgien, mi-international. Tong Eung Hong est un des témoins de ce grand procès. Son livre « J'ai cru au Khmer Rouge » est d'ailleurs devenu un document important de ce procès.
Pourquoi je me bats pour un tribunal? Je crois que c'est important dans ce sens qu'il y a un crime commis contre la société cambodgienne. Et si on ne fait rien, on va oublier. Et quand on oublie, c'est de pire des choses parce qu'on pourrait recommencer et peut-être on a toujours négligé des leçons du passé. Ce tribunal, peut-être ça peut aider quelques gens à se poser des questions sur le fondement de la société, sur le moral, surtout avoir un état de droit. L'indépendant, les trois pouvoirs, c'est comme tout État démocratique. C'est pour toutes ces raisons-là que je me bats pour un tribunal plus humain, quoi. Et parce que dans la société comme ça, là, vous ne pouvez pas maltraiter impunément les citoyens. Le pire des cauchemars, c'est l'indifférence. Si on se dit, chacun pour soi, débrouille-toi, c'est pas la vie, c'est pas l'humain. Le plus important, c'est de vivre intensément, de faire partager notre vie éphémère sur cette planète. On ne peut rien faire si on ne se rend pas conscient de soi-même. Il faut d'abord lutter à l'intérieur de soi pour que ça change. On est différent, mais on n'est pas tellement différent. Il n'y a pas quelque chose d'insurmontable. Il n'y a pas de choc de situation. Peut-être il n'y a que le choc entre l'incompréhension. Et même c'est difficile, ça vaut la peine d'essayer. Parce qu'on n'a pas d'autre choix, quelque part, que de chercher à comprendre.
C'était Tong Eung Hong. Vivre, c'est comprendre. Une série d'émissions proposées et produites par RCN Justice et Démocratie. Réalisée par Pascaline Adamantidis. Mixée par Olivier Rutten. Sur une musique de Daniel Stockard. Cette série d'émissions a été réalisée avec les soutiens du ministère fédéral des Affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement en Belgique et l'Union européenne.